Bonjour à chacun. Alors Edouard n'est pas là ce matin, il est à une retraite avec une église sœur de Moissy-Cramayel. Et donc on peut penser à lui, mais il sera bientôt de retour. On a entendu un texte ici et en lien avec cela, j'aimerais tout simplement vous lire une citation d'un certain André Comte-Sponville, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'esprit de l'athéisme ». Et dans ce livre, il explique différentes raisons pour lesquelles il ne croit pas en Dieu. Et en voici une. « Mon cinquième argument pour justifier mon athéisme porte moins sur le monde que sur les humains. Plus je les connais, moins je peux croire en Dieu. » Disons que je n'ai pas une assez haute idée de l'humanité en général et de moi-même en particulier pour imaginer qu'un Dieu soit à l'origine de cette espèce et de cet individu. Trop de médiocrité partout, trop de petitesse. C'est intéressant, n'est-ce pas, ce constat assez honnête sur l'humanité en général et sur lui-même. Alors, quelle réponse est-ce que vous donneriez en tant que chrétien? On pourrait imaginer plusieurs réponses. L'une qui nous viendrait peut-être à l'esprit, c'est de dire « c'est un constat honnête, mais en fait, justement, c'est dans la mesure où l'homme devient religieux qu'il devient meilleur. Dans la mesure où il devient religieux, l'homme devient meilleur, et c'est pour ça que nous devons croire en Dieu. » Mais en fait, si on écoute les paroles de Jésus, c'est pas en devenant religieux que l'homme devient meilleur. En fait, ce qu'on lit ici, c'est que l'homme est encore plus tordu qu'on ne le pense. Il arrive à utiliser la religion pour se placer au centre. Si Sponville est honnête dans son constat, Jésus, il est encore plus. Jésus ne voit pas un déni de l'existence de Dieu dans le fait que l'homme soit tordu. Il y voit, en fait, la nécessité d'un changement, c'est vrai. Mais s'il peut crier cette injustice, c'est sur la base de l'existence de Dieu, parce que Dieu est plus saint, plus juste qu'on l'imagine encore. Quand on lit un peu ce sermon sur la montagne, ce discours de Jésus, on réalise que Jésus ne mâche pas ses mots, il y va d'une manière assez forte. Hein. Un peu plus tôt, Jésus parlait d'une justice morale que Dieu attend des humains, une justice qui va tellement en profondeur qu'il faut aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple amour pour ses amis ou pour ceux qui nous entourent, les voisins. Mais la justice que Jésus dévoile, elle ne se cantonne pas à une justice morale, elle va jusque dans le domaine de la piété, la manière d'être attaché à Dieu, de vivre sa relation avec Dieu. Et ça aussi, ça doit venir en lumière. Et donc, après avoir parlé de cette justice sur le plan moral, Jésus entre dans cette vie de piété, dans les versets 1 à 18, les dons, Autrement dit, les aumônes, le fait de donner pour les pauvres, la prière, mais aussi le jeûne. La prière, le fait de s'adresser à Dieu, le jeûne, le fait de s'abstenir pendant un temps de manger. Et par souci de temps, vous avez vu, on a enlevé la section du milieu sur la prière, qui est magnifique, et on a lu la prière tout à l'heure avec Thomas. Mais on va se consacrer à ces trois éléments d'une vie de piété. Au niveau de la structure, on pourrait tout simplement les prendre les uns après les autres, aumône, prière, jeûne, ce serait tout à fait légitime. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on réalise que pour les trois, il y a une même structure qui revient à chaque fois. Il y a la pratique, il y a ce qu'il faut éviter, il y a l'exemple des hypocrites, et on trouve ensuite une expression qui appuie la déclaration « en vérité, je vous le dis ». Ils tiennent là leur récompense. Et Jésus poursuit à chaque fois avec « mais toi, mais vous, suivez telle démarche ». Et l'insistance à chaque fois, c'est qu'il faut pratiquer ces actes de piété dans le secret. Et la section, elle se termine à chaque fois avec « et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Et en fait, quand on regarde la structure de ces trois passages, on réalise qu'il y a deux trajectoires. Le principe central qu'on découvre dans ce texte, c'est que la manière dont je vis ma piété définit ce que je veux vraiment et ce que j'obtiendrai en fin de compte. La manière dont je vis ma piété définit ce que j'aime vraiment, ce que je veux vraiment et ce que j'obtiendrai en fin de compte. Et comme plan, je vous suggère la chose suivante. La pratique de l'aumône, de la prière et du jeûne, la pratique des hypocrites et leur récompense, la pratique des enfants du Père et leur récompense. On commence avec la pratique de l'aumône, de la prière et du jeûne. Ici, de nouveau, j'utilise le terme aumône. Dans notre version, c'est don, mais il y a cette idée de donner pour les pauvres en particulier. Alors, quelle était la fonction des aumônes dans ce passage, mais aussi à travers la Bible? Eh bien, j'aimerais vous lire une citation du grand dictionnaire de la Bible en parlant d'aumône. Aumône est associée à justice. Non pas en ce qu'elle pourrait justifier une personne, mais en ce qu'elle constitue une action juste dont chacun est redevable à l'égard de son prochain, aux yeux de Dieu qui donne les moyens nécessaires à cette fin. L'aumône, en fait, elle fait partie de la pratique de la justice. C'est une chose juste que de partager ses biens avec ceux qui en manquent cruellement. Mais l'auteur de l'article remarquait qu'il veut mettre en évidence un piège qui consisterait à croire que c'est en pratiquant cette justice qu'on est justifié devant Dieu, déclaré juste devant Dieu. Que ce serait par ce moyen-là qu'on devient meilleur. Et on se souvient du constat qu'on a dit au départ, l'homme est plus tordu qu'il ne le réalise. La pratique de la justice, elle est importante, mais en elle-même, elle ne nous permet pas de changer, de devenir meilleur. Vient ensuite la prière. La prière, c'est cette partie intime de notre relation avec Dieu. C'est goûter à ce privilège de lui parler, de lui dire avec liberté ce que nous avons sur le cœur et en même temps aspirer à connaître sa volonté, que ta volonté s'accomplisse. Cette rencontre mystérieuse entre notre volonté et la sienne. Il y a ensuite le jeûne. Le jeûne, c'est, je me souviens juste en le disant de quelqu'un quand j'étais à Laval qui... il faut que je me souvienne comment ça s'est passé, mais on venait de dire qu'on avait passé un week-end de jeûne. Puis il a dit, et puis moi je parlais des jeunes, des adolescents, quoi. On vient de faire un week-end de jeûne. Ah oui, vous avez jeûné pourquoi? C'était l'incompréhension totale, mais jeûner en fait, c'est l'expression dans la Bible de plusieurs choses. Il est associé parfois à la recherche de la direction de Dieu, de sa volonté. On le voit par exemple chez Moïse, Esther, Esdras, l'église d'Antioche. Mais dans les textes qui en parlent, on voit aussi parfois que c'est l'expression d'une dépendance en Dieu. Quand je jeûne, quand je m'abstiens de nourriture, je dis ma dépendance en Dieu. Je m'humilie devant Dieu. Symboliquement, la dépendance de la nourriture devient secondaire à la dépendance en Dieu. On le voit par exemple chez Néhémie, les habitants de Ninive, David, Saul de Tarse. Et en ayant ces choses à l'esprit, la première remarque qu'on entend de Jésus vient au verset 1. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Et là, on revient à la première marque de cette piété, le fait de donner pour les pauvres. Autrement dit, lorsqu'on donne, on partage nos biens avec des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. Lorsqu'on prie ensuite, lorsqu'on jeûne, il y a le danger de le faire pour être vu des autres. Et le danger, on verra, il est bien réel. Mais en entendant ça, il y en a peut-être qui se disent, eh bien justement, c'est à cause de ce risque-là que je ne donne pas. C'est à cause de ce risque-là que je ne prie pas. C'est à cause de ce risque-là que je ne jeûne pas. Je préfère ne pas prendre de risque avec le danger de le faire pour être vu des gens. Ce serait un peu comme quelqu'un qui, en faisant la vaisselle, casse régulièrement des assiettes. Il se dit, mais c'est terminé, j'en ai trop cassé. À partir de maintenant, on mange dans les plats, on arrête les assiettes. Et vous allez bien sûr apprécier son hospitalité, vous mangez dans les plats chaque fois que vous allez chez lui. Ce serait pas logique, ce serait pas une réponse appropriée à un risque que d'arrêter d'utiliser de la vaisselle. Ça me fait penser aussi à un sketch de Chevalier Las Palès. Et sauf erreur, c'était, j'ai pas pu retrouver, mais c'est Las Palès qui disait quelque chose du genre, maintenant c'est terminé, j'arrête de donner pour la recherche sur le cancer. Et Chevalier qui comprend pas très bien, Las Palès continue en disant, mais il trouve pas, j'arrête de donner. Ce serait pas la réaction logique à un risque de devoir trop donner ou de donner pour rien. Au-delà de la blague, qu'est-ce qui dans le texte nous dit que c'est important? Que c'est important que de donner, que c'est important que de prier, de jeûner. Remarquez que Jésus ne dit pas « si tu pries, si tu jeûnes, si tu donnes », mais plutôt « lorsque tu fais un don, lorsque tu pries, lorsque vous jeûnez ». Autrement dit, Jésus présuppose qu'on va le faire, que si on est disciple de Jésus, on va faire chacune de ces choses. Il le présuppose. Ça fait partie intégrante de la vie du croyant. Sa mise en garde, elle n'a pas pour but d'empêcher ces marques de piété, mais plutôt de bien les vivre. Maintenant, en pensant à la réticence qu'on pourrait avoir à les vivre, on peut relever quelque chose d'intéressant quand on prend le sermon sur la montagne dans son ensemble. Écoutez par exemple ce que Jésus dit plus tôt dans le chapitre 5, donc si vous tournez la page, c'est au verset 16. Il dit quelque chose qui peut troubler dans un premier temps. Donc c'est la page 619, chapitre 5, verset 16. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Vous avez bien entendu? Là, Jésus dit qu'il doit voir votre belle manière d'agir afin qu'il glorifie votre Père Céleste. Est-ce que c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire sur le fait de justement ne pas le faire pour être vu des hommes? Alors en apparence, on dirait oui, il y a contradiction. En fait, on réalise que Jésus aborde la question de la justice, de la morale, de l'éthique, avec toutes sortes d'angles. Au niveau des similitudes, il y en a entre les deux textes. Il s'agit d'œuvres pratiquées devant les gens. Au niveau des similitudes, on voit aussi qu'il est question de Dieu en tant que Père. Mais notez une différence de taille entre les deux passages. L'aboutissement. Pour le premier texte, dans le chapitre 5, l'aboutissement, c'est le fait que le Père sera glorifié. Pour le deuxième texte, au chapitre 6, l'aboutissement, c'est le fait que vous êtes vus des humains, votre propre gloire. Et finalement, on remarque implicitement qu'il y a plus de similitudes. Dans les deux cas, c'est le Père qui devrait être glorifié. Dans les deux cas, l'erreur serait de se focaliser sur soi, soit pour se protéger, soit pour être vu des autres. Les deux textes ne sont pas contradictoires. La tentation, elle est différente. Parfois, ma tentation, si je suis croyant, sera de cacher le fait que je suis chrétien. Cacher mon appartenance à Christ, ne pas vouloir le montrer. Et la première parole de Jésus m'invite à vivre ma foi aux yeux de tous. Parfois, ma tentation sera de vivre de manière à être vu des autres, particulièrement des autres croyants. Et la deuxième parole de Jésus m'invite à être prêt à vivre ma piété dans le secret, afin que le Père soit glorifié. Alors il se peut que ce matin, si vous êtes croyant, votre tentation la plus grande soit celle de rester caché, de ne pas vouloir être vu comme appartenant au Christ. C'est possible. Mais je vous suggère que la deuxième tentation, elle est bien réelle aussi. Elle est bien réelle. Et ça nous amène au deuxième point, la pratique des hypocrites. Et leur récompense. Là, Jésus utilise le terme hypocrite pour parler de cette première trajectoire. Et dans la culture grecque, l'hypocrite définissait au départ un orateur et par la suite un acteur. Et il nous fait entrer dans la réalité d'une mise en scène, un peu comme un acteur qui entre dans la peau d'un personnage. L'hypocrite entre dans la peau de celui qu'il n'est pas. Il porte un masque, un déguisement. Et on réalise en fait que quand quelqu'un est acteur, qu'il soit dans un film ou qu'il soit dans un théâtre, il n'y a pas de problème à jouer un rôle. Le problème avec l'hypocrite religieux, c'est qu'il veut tromper les gens autour de lui. Il veut paraître comme plus spirituel qu'il ne l'est réellement. Il pratique sa religion, mais c'est pour tromper l'auditoire. Regardez comment Jésus le met en évidence, ici au verset 2. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. De manière très explicite, Jésus décrit celui qui veut donner pour être vu de tous. Si je veux être vu, quoi de mieux qu'un son de trompette ? Si je veux être vu, quoi de mieux que d'être placé au coin d'une rue ou dans une synagogue ? Attention, je suis sur le point de donner. Et c'est difficile de savoir si Jésus décrit quelque chose littéralement, si effectivement il y avait des sons de trompette qui retentissaient, soit pour attirer les pauvres, pour qu'ils viennent recevoir quelque chose, ou soit pour attirer l'attention des gens, pour dire « il y a une situation pénible, donnez, partagez-vous bien ». Possible que ce soit l'une ou l'autre, certains voient cela. Mais que ce soit le cas ou non, que ce soit littéralement qu'il faisait sonner de la trompette, le principe qui ressort, c'est que l'hypocrite utilise les circonstances pour être vu des autres, vu de tous. Et c'est la même chose avec la prière. Là, ce sera le fait d'être debout au coin d'une rue ou dans une synagogue pour être vu des autres. Pour l'hypocrite qui jeûne, plutôt que de se laver le visage et sourire, il va utiliser la mine défaite, l'air triste, pour bien montrer qu'il ne mange pas. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous si nous sommes croyants et que nous vivons cette piété ? Comment est-ce qu'on utilise les circonstances pour mettre en évidence notre piété ? Alors, on pourrait imaginer un journaliste du Parisien qui vous prend en photo avec un énorme chèque pour Tahadi et ou pour une autre cause humanitaire qui a besoin de soutien. Et vous êtes là avec votre chèque. Ça, c'est... On pourrait imaginer. Mais en fait... C'est beaucoup plus subtil que ça, non? C'est beaucoup plus subtil que ça. On a entendu une histoire, il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous disait que, alors c'est, je ne l'ai pas eu de première main, mais il semble que ce soit passé. John Stott était pasteur dans une église à Londres, il a maintenant pris sa retraite. Mais à un moment donné, il a invité des amis qui n'étaient pas croyants à venir dans l'église le dimanche matin. Et ils avaient un petit garçon. Et le culte a commencé et à un moment donné, le petit garçon s'est levé sur la chaise en regardant un peu partout et il a crié « Ils sont où les hypocrites ?» Alors vous imaginez les parents, parce que très certainement les parents avaient dit « Mais tu sais à l'église, il n'y a que des hypocrites. » Et finalement, on réalise que eux-mêmes avaient peur de le dire ouvertement et c'est le petit garçon qui en parle. C'est plus subtil que ça, l'hypocrisie, n'est-ce pas? Moi, je me souviens d'une situation où j'étais en colocation à Laval et mon colocataire était sur le point de rentrer. J'étais en train de faire de l'ordre, exceptionnellement. Et j'ai remarqué certains papiers en lien avec des dons que j'avais faits. Et plutôt que de les ranger, je me suis focalisé sur d'autres choses. Et de manière inavouée, j'espérais qu'il allait voir que je donnais à certaines œuvres. C'est plus subtil, n'est-ce pas? C'est plus subtil. Est-ce que de façon subtile, j'essaie d'être connu comme quelqu'un qui donne, d'être connu pour ma piété? Pour le jeûne, il faut reconnaître que la pratique, elle n'est pas très courante. Mais associé à la prière, on pourrait imaginer des situations où, dans une conversation, dans le fil d'une conversation, on arrive à glisser le fait qu'on a consacré pas mal de temps dans la prière. La nuit dernière, j'arrivais pas à dormir et je me suis mis à prier pour tous les gens autour de moi, ma famille. J'ai dû passer 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure à prier pour les gens autour de moi. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour eux. Est-ce que j'avais vraiment besoin de le dire? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler à d'autres? À l'ère de Facebook et Twitter, on peut partager la vie des uns et des autres avec tout l'aspect positif. Mais en pensant à la piété, il y a un collègue qui me faisait part du décalage qu'on peut constater entre une apparence de piété et la réalité. Pour ce qui est d'en parler parfois, est-ce qu'il n'est pas légitime d'en parler? Il y a des moments où c'est utile de parler de la prière, de parler du jeûne, de savoir comment on le vit. Si quelqu'un, par exemple, disait « mais j'ai envie de donner à l'Église, mais je ne sais pas comment faire, quels principes devraient diriger mes dons pour l'Église, pour les pauvres, est-ce que je devrais donner à des individus dans la rue ou à une organisation ?» C'est légitime de poser ces questions et d'y répondre. Ou de poser des questions sur le jeûne, savoir comment tu fais, toi. C'est légitime d'en parler. Mais dans le cas où on est subtilement en train de vouloir se présenter comme quelqu'un de juste devant les autres, être le centre de l'attention, Jésus dévoile l'aboutissement. Vivre la piété de cette manière, c'est démontrer ce que l'on veut vraiment. Est-ce que l'on obtiendra? Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Si ce qu'on veut vraiment, c'est être vu des gens, eh bien c'est ce qu'on obtiendra. Si ce qu'on veut vraiment, c'est être vu, eh bien c'est ce qu'on obtiendra. On sera vu des gens. Mais ça sonne creux. Ça sonne creux quand on y réfléchit. Surtout quand on réfléchit à la pratique des enfants du Père et leur récompense. Par contraste, Jésus décrit la deuxième trajectoire qu'on voit dans les versets 3 et 4. « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Verset 17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Je suis perdu. Pour le fait de donner, Jésus utilise une expression qui peut faire un peu sourire, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alors imaginez tout à l'heure, on fait passer l'offrande. D'une main, vous voulez mettre dans l'offrande, mais de l'autre, vous voulez faire autre chose, ramasser quelque chose par terre, et c'est la catastrophe, vous faites tomber l'offrande. Ce serait ça? Est-ce que c'est ça l'explication? Non, c'est une expression que Jésus utilise pour démontrer qu'il y a un autre problème. C'est pas simplement le désir d'être vu des autres. Il y a une manière d'être focalisé sur soi dans le fait d'être obnubilé par sa propre générosité. Imaginez que vous venez de faire un don à une organisation et pendant l'heure qui suit, vous n'en revenez pas. Qu'est-ce que j'ai été généreux? Qu'est-ce que j'ai été généreux avec ce don? Mais ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est que pour éviter de se focaliser sur soi, soit pour être vu, soit devant soi, la voie empruntée par les enfants du Père, c'est de le faire secrètement. Secrètement. Il y a des secrets qui sont dévoilés ces derniers jours avec la découverte de la maison où se trouvait Oussama Ben Laden. On découvre par exemple qu'il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, que les gens qui venaient dans la maison attendaient une heure et demie à peu près en roulant en voiture avant d'utiliser leur portable. Et tout ce secret devait garantir la sécurité d'Oussama Ben Laden. Ici, le secret, il doit garantir la sincérité. La sincérité, elle se voit dans le fait qu'on peut donner, prier, jeûner, sans que personne ne sache. Et c'est là le test. C'est là le test marquant. Est-ce que je peux donner à une organisation missionnaire, humanitaire, sans que personne ne sache? Est-ce que je peux prendre un temps conséquent dans la prière sans le dire à personne? Est-ce que ma ferveur, quand je prie en groupe, est systématiquement plus forte que lorsque je prie tout seul? Est-ce que je suis prêt à jeûner, non pas simplement si l'église ou le groupe de quartier devait le proposer? Et pourquoi est-ce que les croyants feraient ça? Pourquoi est-ce qu'ils le feraient dans le secret? Parce qu'ils préfèrent de vivre ces moments d'intimité avec le Père exclusivement. C'est parce qu'ils préfèrent cela. Remarquez que Dieu n'est pas décrit comme Seigneur ou comme Dieu ailleurs, comme c'est le cas ailleurs dans le sermon. Il est décrit comme Père et c'est la relation qui est mise en avant. Et la récompense, elle est là. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Maintenant, en parlant de récompense, ça peut nous soulever des questions. Est-ce que finalement, de parler de récompense, c'est pas aussi à sa façon se focaliser sur soi? Je veux obtenir mon bonus, je veux obtenir ce plus, je veux obtenir une récompense parce que je le mérite. J'aimerais vous lire une citation de C.S. Lewis qui parle justement de ces récompenses. Il y a différents types de récompenses. Il y a la récompense qui n'a pas de lien naturel avec les choses que vous faites pour l'obtenir. Et elle est étrangère au désir qui devrait les accompagner. L'argent n'est pas la récompense naturelle pour l'amour. Et il utilise l'exemple d'un homme qui épouserait une femme simplement pour son argent. C'est pas naturel. Le mariage n'est pas la récompense, ou l'argent n'est pas la récompense naturelle pour un mariage. Mais le mariage, c'est la récompense naturelle pour quelqu'un qui aimerait l'autre et qui voudrait vivre cette intimité avec l'autre. Ça, c'est en corrélation. Et c'est pareil ici avec le Père. C'est pour jouir d'une plus grande intimité avec le Père que l'on vit dans ce secret, dans cette intimité. C'est là la récompense. Autrement dit, quand je cherche cette sincérité, en gardant cette piété secrète, je goûte à l'intimité avec le Père exclusivement, et c'est là la joie. C'est là le privilège de goûter à cette relation avec le Père. Et en parlant de cette relation comme d'une relation avec un Père, on réalise que le privilège que ça représente. Si on a à l'esprit ce qu'on a dit tout au début sur le caractère profondément tordu de l'être humain, si on réalise combien on est tordu dans notre justice, dans notre piété, si on réalise combien on est loin de la justice qui est en Dieu, le fait que Jésus parle ici de Père, ça devrait nous choquer, nous surprendre. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Père alors que tout ce qui nous caractérise est tordu? Si nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est pas parce qu'on aurait réussi d'une manière ou d'une autre à nous améliorer ou à mériter cette relation. C'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est Jésus qui ouvre cette voie, c'est Jésus qui nous invite à prier comme cela. C'est lui qui nous invite à dire notre Père qui est au ciel. Parce qu'à la fois homme et Dieu, c'est lui qui a vécu la vie juste que nous n'arrivons pas à vivre. C'est lui qui a subi la mort que nous aurions dû subir. Et en prenant notre place à la croix, c'est là qu'il nous permet de vivre, de goûter cette réconciliation avec le Père, de nous rapprocher de lui. Et le fait de savoir ça, eh bien, ça devrait nous faire chérir cette relation avec le Père. Le fait de savoir ça, ça devrait nous pousser à rechercher son regard plutôt que le regard des autres. Le fait de savoir ça, ça devrait tout simplement nous donner envie de goûter davantage à cette intimité avec lui. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous désirons être vus des autres, connus des autres, pour une piété apparente. Nous te demandons pardon pour le fait d'utiliser ces choses qui sont marques de notre vie avec toi pour notre intérêt. Nous voulons te remercier parce que tu nous permets, en Jésus, grâce à Jésus, de t'appeler Père et de goûter à cette relation. Nous voulons te remercier pour celui qui a vécu cette parfaite vie, cette vie juste, qui a toujours vécu dans l'obéissance au Père et qui pourtant a accepté d'être exclu pour nous permettre de goûter à cette intimité. Et nous voulons y goûter. Nous te prions, Père, que tu nous donnes les meilleures aspirations, le désir de vivre cette relation avec toi, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, pour que tu sois glorifié comme notre Dieu et Père. Au nom de Jésus. Amen.